l'ensemble des terres habitées est divisé en trois parties, l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Le point de départ est au couchant du soleil. À droite est l'Afrique, à gauche l'Europe, entre elles l'Asie. Extrait de Pline l'Ancien, Histoire naturelle, livre 3, chapitre 3.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
La personne qui, aujourd'hui encore, regarde une carte du monde romain ne manque pas d'être impressionnée par l'ampleur de la construction qui s'est faite par Rome. En effet, au nord, on atteint la limite de l'Angleterre et de l'Écosse actuelle. Nous allons au sud jusqu'au fond de l'Égypte. À l'ouest, les côtes de l'actuel Portugal. Et à l'est, au moment où l'Empire a atteint sa plus grande expansion territoriale, sous le règne de Trajan au début du second siècle, nous atteignons le golfe arabo-persique. Donc la construction est impressionnante. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir aussi les efforts que les Romains ont essayé de faire par des expéditions pour mieux connaître le monde qui les entourait. Car, bien sûr, ils avaient le sentiment de dominer le monde connu. Mais ils savaient bien qu'il y avait autre chose autour de leur empire qui leur échappait, qu'il y avait beaucoup plus à l'est un autre empire avec lequel ils avaient des liens commerciaux mais qu'ils connaissaient finalement très très mal, l'Empire de Chine, qu'il y avait au sud de la Méditerranée et de l'Égypte, des provinces d'Afrique, de Cyrénaïque, des territoires désertiques qu'il fallait peut-être explorer pour mieux les connaître. Et donc c'est cet inventaire du monde, expression qui est née à l'époque de l'empereur Auguste, que je vous propose aujourd'hui. D'ailleurs, cette expression « inventaire du monde » a donné lieu à un très beau livre de l'historien Claude Nicolet, intitulé « L'inventaire du monde, géographie et politique aux origines de l'Empire romain ». C'est donc sous le règne d'Auguste, entre 27 avant Jésus-Christ et 14 après Jésus-Christ, que les Romains ont éprouvé le besoin de mieux connaître le monde, pour mieux le gouverner et éventuellement agrandir leur empire. Les données qui ont été collectées sont exposées dans le portique d'Agrippa, sous la forme d'une liste ou d'une carte. Ainsi, nous voyons bien qu'il y a à ce moment-là, aux alentours des années 20 avant Jésus-Christ, eh bien, le désir de mieux connaître le monde pour mieux l'appréhender et pour éventuellement mieux le dominer. Alors effectivement, il y a des expéditions qui ont lieu dans un premier temps dans l'Afrique. Rome est présente en Afrique par la province d'Afrique, c'est-à-dire Carthage, l'actuelle Tunisie et une partie de l'actuelle Libye, puis dans les Mauritanies, qui deviennent une province sous l'empereur Claude, à savoir l'actuel Maroc et une bonne partie de l'actuelle Algérie. Et donc c'est à partir de là que partent des expéditions. Il y a effectivement, en 20 avant Jésus-Christ, Cornelius Balbus qui va pousser une expédition jusque dans le Fezzan, au sud de la Tripolitaine. Ensuite, il y a une deuxième expédition au début des années 70 après Jésus-Christ, menée par Valerius Festus et qui lui va pousser un peu plus loin dans la région du Tibesti. Et puis, il y a enfin une dernière expédition toujours de Festus dans les années 80 vers le pays des rhinocéros, c'est-à-dire de ces animaux étranges, dont certains ont été d'ailleurs ramenés à Rome. Et donc, on voit que les Romains ont poussé des expéditions assez loin dans le Sahara, mais à vrai dire, évidemment, ça n'a jamais servi de base de départ, car ils ont vite compris que cette zone était difficilement colonisable et utilisable par l'Empire. De même, il y a eu, par la suite, une série d'expéditions autour de la mer Rouge, dans la vallée du Nil et le long de cette mer. Alors, citons par exemple la campagne de Petronius vers 20 avant Jésus-Christ, en direction de Méroé, la campagne cartographique de plusieurs centurions qui, entre Cyrène et Méroé, en 61 et 63, ont cherché à cartographier cette zone de l'Égypte. De même, il y a eu Aelius Gallius qui, en 25-24 avant Jésus-Christ, a pénétré en Arabie, dans la péninsule arabique, ce qu'on appelait l'Arabie heureuse, disaient les Romains, pour voir ce qui se passait de l'autre côté de la rive de la mer Rouge. Et donc, à partir de ce moment-là, la mer Rouge devient un élément mieux connu, et grâce à la découverte de la mousson et du phénomène de la mousson, eh bien, cela a permis l'évolution du commerce vers l'Inde à partir du règne de l'empereur Auguste. Et d'ailleurs, cette meilleure connaissance, ou ce début de meilleure connaissance, permet aux Romains de lancer des cartes. Des cartes, effectivement, qui apparaissent à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, en particulier une carte dite d'Agrippa. Agrippa a été à la fois le gendre de l'empereur Auguste et son principal collaborateur. Et il a donc fait une cartographie du monde connu. Alors c'est vrai qu'il semble bien que ce monde tel qu'il était cartographié surreprésentait la Méditerranée. Mais évidemment, la Méditerranée, la Mare Nostrum, la mer des Romains, était finalement au cœur de cette construction intellectuelle et géographique. Il n'en reste pas moins vrai qu'il distingue bien l'Afrique, sans évidemment savoir que l'Afrique va beaucoup plus au sud qu'il ne pouvait l'imaginer. Ils ont tendance également, et c'est normal, à méconnaître véritablement l'immense continent asiatique, mais il y a tout de même, dès cette fin de premier siècle, un effort pour essayer de créer cet inventaire du monde. Agrippa est mort en 12 avant Jésus-Christ et sa sœur, Paulla, a décidé justement de le valoriser et de lui rendre hommage en élevant un portique où étaient présentés les résultats des expéditions et des recherches qu'il avait commanditées avec bien sûr l'accord de l'empereur Auguste. Et, disait-elle, elle voulait permettre ainsi au peuple romain de voir ces résultats et de donner le monde en spectacle à la ville. La ville avec un V majuscule, c'est-à-dire à Rome même. Alors bien sûr, cette série d'expéditions était faite pour mieux connaître le monde. Il pouvait y avoir peut-être aussi d'autres motivations. L'Afrique en particulier fascinait les Romains. Les Romains supposaient que le continent africain avait des richesses, mines d'or, d'argent, et également des peuples extraordinaires, des animaux fantastiques qui peuplaient l'imagination du peuple roi. Alors effectivement, il y avait quelques richesses, les mines de Tripolitaine de l'actuelle Libye ont été exploitées, les mines de marbre d'Égypte. Quant aux animaux, oui, évidemment, ils ont trouvé en Afrique des animaux qui étonnaient les Romains et je dirais les visiteurs de Rome quand on exposait des lions, les éléphants étaient connus, mais des rhinocéros, voire même des hippopotames. Donc effectivement, il y avait une fascination pour un monde qui restait finalement extrêmement mystérieux. D'autre part, il faut voir aussi qu'il y a une volonté peut-être de voir si des conquêtes sont à nouveau possibles. D'où l'intérêt, par exemple, des expéditions qui ont eu lieu en Égypte. Peut-on aller plus loin que les premières cataractes du Nil ? Est-ce que l'on peut pousser vers ce royaume d'Éthiopie ou pas ? Est-ce que, finalement, cela vaut la peine d'aller vers le massif éthiopien et les sources du Nil ? Au final, Il s'avère que cette expédition vers les sources du Nil est sans doute quelque peu inutile et trop difficile. De même pour l'Arabie. Si l'Arabie heureuse en tant que telle n'a pas été conquise par les Romains, par contre, la connaissance de l'Orient leur a permis, à l'époque de Trajan, de se lancer à la conquête des provinces parthes, de Mésopotamie, d'Assyrie, et d'atteindre donc le golfe arabo-persique. De ce point de vue-là, Trajan reprenait un peu la légendaire expédition d'Alexandre qui faisait tant rêver les conquérants romains. Alors, légendaire, non pas au sens qu'elle fut inventée, parce que Alexandre a bien été un formidable conquérant, mais parce que finalement, elle a laissé une empreinte dans l'imaginaire des hommes de l'Antiquité, parce qu'il avait poussé très loin, puisqu'il était allé jusqu'à l'Indus. Et donc, finalement, ces grandes expéditions ont permis aux Romains de rêver, de découvrir un monde qu'ils ont longtemps fantasmé, et donc... Elles ont laissé toute une série de traditions. Et par exemple, vieille légende qui courait chez les Romains, c'est qu'on pensait qu'il y avait des peuples extraordinaires au sud du Sahara qui possédaient des oreilles si grandes qu'ils pouvaient s'y envelopper pour dormir la nuit.